Bonsoir à tous, vous êtes sur FPP, Radiance Fréquence Paris Pluriel, pour l'émission Zoom Écologie. Alors, on a une super équipe, comme chaque jeudi, qui est là dans les studios. Alors, on a déjà le professeur.
Professeur de la bande à Bébert.
Professeur de la bande à Bébert. On a un envoyé très très spécial.
De la bande à Bébert aussi.
Et on a Rastacha.
Salut, salut.
Côté technique.
Viva la bande à Bébert.
Toujours dans la bande à Bébert, on a Cyril. Salut Cyril.
Salut.
Et ce soir, qui assure la technique, on a l'exceptionnelle Rebecca.
Bravo.
Salut. Bravo Rebecca.
Si on t'entend, c'est que c'est bon, la technique a marché.
Et donc, moi, c'est Élise. Hein. Donc là, c'est le groupe La Bande à Bébert qui va vous parler ce soir de la déconstruction de la propagande nucléocrotte. Alors, qu'est-ce que se cache derrière ce titre ? Alors, on va vous parler de nucléaire et on va essayer de déconstruire un petit peu le mythe, surtout en seconde partie de soirée. Mais on va bien commencer par un apéro actu. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Alors, sur l'apéro actu, du coup, c'est professeur qui commence. En fait, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu. Alors, moi, c'est une histoire. C'est un événement que je connaissais assez peu. Si je vous dis gaz de schiste, est-ce que ça vous parle ? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'articles qui sont parus ces derniers temps, que ce soit communiqué des Amis de la Terre. Mais moi, j'ai vu ça sur un article du Monde.
Du
monde. Voilà.
Donc, il y a du gaz dans la bouteille.
En fait, il y a du gaz dans le sous-sol et on essaie de le faire remonter. C'est ça ?
Voilà.
Il faut enlever le bouchon. Quoi.
Et donc, en fait, c'est un petit peu. Alors, ce qui se passe en ce moment dans cet article, ce qui est décrit. Alors, c'est. Donc, on est. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du schiste bitumineux, des sables bitumineux, tout ça, pour extraire le pétrole. Alors maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement de récupérer le gaz à partir des schistes. Alors vous allez me dire...
C'est quoi le schiste ?
C'est quoi le schiste ? Alors le schiste est une roche.
Sous nos pieds, il y a des hydrocarbures que les géants du pétrole veulent récupérer. Voilà. Et notamment en France, ils sont en train d'essayer de prospecter dans le sud-est et le sud-ouest pour voir s'il n'y aurait pas du gaz dit naturel.
Classiquement, en fait, le gaz, comment le récupérer ? En fait, je ne sais pas, c'est comme un lac à côté de Pau, hein, dans le sud-ouest. Donc, c'est des poches de gaz, en fait, limite, qu'on pompe. Hein, et c'est comme ça qu'on récupère le gaz naturel assez facilement depuis toujours. Mais depuis 10 ans, en fait, il y a les États-Unis qui, depuis 2009, apparemment, sont devenus les premiers producteurs de gaz devant la Russie depuis l'exploitation des gaz de schiste. En fait, l'idée, c'est de récupérer dans des gaz, c'est des espèces du gaz qui est fragmenté, en fait, au niveau de ces roches. L'idée, c'est de, via des exploitations, c'est d'envoyer en fait un petit peu de la pression hydraulique de l'eau avec des adjuvants chimiques pour réussir en fait à extraire ce gaz qui permet, notamment selon le PDG de GDF Suez, comment il s'appelle, Mestrayer, il me semble.
Moi, je sais pas.
Monsieur Mestrayer, qui dit que ce sera un gaz, notamment, ce sera un gaz propre, hein, bien évidemment. Et c'est le gaz du 21e siècle, hein, puisque il sous-entend en fait dans l'article qu'on est en train de passer de la société du pétrole à la société du gaz, le gaz propre.
Gaz naturel, hein, bien sûr.
Donc voilà.
Et donc.
Non, en fait, il faut différencier quand même le gaz naturel et le gaz de schiste, parce que le gaz naturel, c'est ce que tu avais dit, en fait, qui se trouve dans les nappes. Des poches de gaz de sous-sol, donc on sait que naturel, le gaz de schiste, en fait, il faut exploser la roche pour le faire remonter.
Donc voilà, et pourquoi du coup il y a une actualité en ce moment en France, hein, c'est parce que la France n'est pas, et notamment visée aussi par l'exploitation de ces gaz de schiste, puisque en France nous avons notamment dans tout l'Écosse, alors je ne sais pas si vous voyez où c'est l'Écosse, hein, c'est tout le Massif Central, c'est le Quercy.
C'est là où on fait du whisky, l'Écosse.
Bien joué. Et c'est aussi toute la partie du Larzac. Alors, je sais pas, le Larzac, tout de suite, moi, il y a un nom qui me tilte, c'est le moustachu. Hein. Toutes les luttes qu'il y a eu, c'était quoi ? C'était dans les années
70,
voilà, avec l'extension des camps militaires, notamment dans ce coin. Et donc, ce coin est visé. est visé notamment pour l'exploitation des gaz de schiste, puisqu'en fait, il y a l'État, le gouvernement français, qui a cédé en fait des concessions d'exploitation, notamment à Total, mais aussi à d'autres, à GDF, via des consortiums avec des Américains, pour pouvoir exploiter. Pour exploiter la possibilité
pour l'instant explorer.
Bon, c'est, oui, c'est pour explorer
évidemment, voilà, c'est la première étape. Bon, après peut-être il y aura une exploitation, mais
oui, pardon,
on se doute que si c'est économiquement rentable, ils vont vouloir l'exploiter parce que, ouais, il faut quand même gagner des sous pour eux, hein. C'est des grandes compagnies pétrolières.
Donc, voilà. Justement, donc José Bové, qui avec les objecteurs de, enfin qui avait lancé une alerte avec les, enfin qui a été très médiatisé là-dessus, il y a aussi les objecteurs de croissance et les amis de la Terre. Qui sont bien mobilisés, enfin qui sont en train de, et attaquent aussi maintenant, qui sont en train de se mobiliser sur cette histoire de gaz de schiste, justement, ou par rapport en fait là, ce qu'ils remettent en question, c'est par rapport aux pollutions chimiques qu'il peut y avoir et au manque de concertation démocratique. Enfin, vraiment personne n'est au courant. Par exemple, sur Le Monde, donc il y a eu une interview avec José Bové là-dessus, en fait, par des internautes. Où en gros justement il explique que, enfin, ce qui est épatant, c'est que en plus c'est Borloo qui a donné les permis d'exploration à ce niveau-là et qui, enfin, il n'y a pas eu de débat ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni au Conseil économique et social, et il n'y a personne qui est au courant. Les collectivités locales ne sont pas au courant, les mairies elles sont pas au courant, les conseils généraux, c'est tombé comme ça en gros.
Mais quand tu parles de pollution, ce serait quoi comme type de pollution? Parce que là, tout à l'heure, le professeur disait que pour extraire le gaz de schiste, il fallait balancer de l'eau.
En fait, on injecte de l'eau avec des adjuvants chimiques, en fait.
Voilà, voilà. Mais on sait très bien que l'eau, on ne peut pas, même en nettoyant, elle ne peut pas ressortir complètement pure. Et puis, ces produits chimiques, ils vont bien finir leur vie quelque part. Où, quand, quoi, comment
En gros, en fait, le gros problème avec ça, déjà, c'est que, un, les produits qui sont utilisés, parce que ça existe déjà aux États-Unis et au Canada, c'est que les produits chimiques qui sont utilisés, en fait, ils sont brevetés. Donc, secret industriel, on ne sait pas ce que c'est. Donc, au niveau impact sanitaire, enfin, en fait, aux États-Unis, par exemple, ils leur ont permis d'utiliser ce genre de saloperie sans qu'on sache ce que c'est. C'est quand même assez grave. Donc, en France, vu qu'ils sont juste dans la phase d'exploration, justement, le ministère de l'Environnement, il y a eu une pétition en fait, là-dessus, et le ministère de l'Environnement est en train de répondre en disant non, mais enfin, un atelier que j'ai commercialisé maintenant répond en disant non, mais pour l'instant, c'est juste de l'exploration, il n'y a pas eu de demande qui a été vraiment déposée, etc. Quoi.
Ouais, donc, il faut savoir que du coup, en fait, c'est un point très sensible, en fait, toute la partie des Causses et du Larzac, parce que c'est des endroits qu'on appelle karstiques, en fait, donc c'est des zones qui sont très poreuses, en fait, et l'infiltration de l'eau peut être très rapide, et en fait, c'est comme c'est le château d'eau de toute la région du sud-est et du sud-ouest, en termes de pollution d'eau pour la population, hein, même sans parler de la biodiversité, c'est là qu'il y a effectivement il y a des incertitudes très, très grandes.
Alors, en gros, ce qui s'est passé aussi aux États... Enfin, en Pennsylvanie, par exemple, c'est qu'il y a eu des pollutions des nappes phréatiques. En fait, c'est que la technique en fait, qui est utilisée s'appelle la fracturation. C'est justement cette façon de ce que tu expliquais avec cette eau mélangée avec des produits chimiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même récupérer cette eau, ces produits chimiques, et les stocker. Donc du coup, déjà, ça coûte super cher en fait, de les récupérer, de les stocker, donc sachant qu'il peut y avoir toujours des fuites. Hein. Et c'est des preuves, en gros, ça rappelle un peu le nucléaire à ce niveau-là, d'ailleurs. En fait, chaque fracturation qui est faite, ça consomme entre 15 et 20 millions de litres d'eau, déjà, ce qui est immense en soi, qu'il faut répéter plusieurs fois avant d'exploiter. Et après, il faut l'évacuer et le stocker dans des grands bassins qui sont donc l'équivalent de terrain de football. En gros, chaque bassin fait environ l'équivalent d'un terrain de football, ce qui fait quand même pas mal d'eau chimique à stocker. Et donc, du coup, là, on parle même pas de... Enfin, donc, il y a un gros gaspillage déjà énorme. Et on parle aussi donc des produits chimiques qui sont dans l'eau, qui sont utilisés à ce niveau-là.
Oui, parce qu'il y a un risque de rupture de digue. Je sais pas, le dernier événement, je me rappelle comme ça, de tête, de rupture de digue, de décantation de produits chimiques, c'est ce qui s'est passé en Hongrie. Alors, moi, je me rappelle très bien parce que j'y étais à ce moment-là, où notamment, il y a eu cette espèce de vague rouge qui a provoqué une pollution du Danube très importante.
Et donc, pour info, en fait, aussi là-dessus, en France, donc, les entreprises qui s'intéressent à ça, il y a Total, GDF, Suez. Il y a des entreprises américaines aussi qui commencent à s'y mettre, qui sont très en avance, elles, du coup, par rapport à l'exploitation de gaz de schiste. Et il y a aussi, donc, dans le bassin parisien, un permis d'exploration pour l'huile de schiste qui a été donné à Toreador, qui est dont le dirigeant est M. Balkany.
Toreador, prends garde. Lui, con.
Prends garde, toi, adore.
Donc, sinon, en plus des nucléocrates, il y a aussi les mafieux.
Et au niveau de l'actu, par rapport à, au gaz, là, tu parlais de pétition. Est-ce qu'il y a encore une pétition d'actu qu'on peut signer? Et après, il y a aussi un petit flim.
Ouais, alors, il y a une pétition en ligne dont je n'ai plus l'adresse en mémoire, qui a déjà recueilli une quinzaine de milliers de signatures. Bon, je pense qu'avec un bon moteur de recherche,
des amis de la Terre ou pas,
peut-être qu'il y a le lien. Ouais, je sais plus, désolé. Et donc c'est pour demander le gel en fait de l'exploration avant un débat sérieux sur les conséquences que ça pourrait avoir sur l'environnement et les populations. Et dans l'actualité aussi, en fait là il y a eu un film qui a été fait par un Américain qui s'appelle Josh Fox, voilà. Et le film donc c'est Gasland. Et donc c'est tellement intéressant comme film qu'il a été proposé comme nommé aux Oscars donc qui auront lieu bientôt sans doute, et pour le prix du meilleur documentaire. Et ça inquiète beaucoup le lobby du gaz américain, donc qui dénonce le film, qui a tenté de faire un contre-film sans succès, et donc qui dans sa litanie essaye de nous prouver que le gaz est propre et tout, mais ça fonctionne pas. Donc apparemment c'est un film qui inquiète, donc n'hésitez pas à essayer de le regarder. Il est disponible aussi sur internet de façon gratuite, et il y a une scène où on voit de l'eau du robinet qui s'enflamme notamment parce qu'en fait le gaz va remonter dans les nappes phréatiques, tout n'est pas récupéré, et donc il y a des régions entières aux États-Unis où en fait l'eau n'est plus potable. Je crois même que ça a été interdit dans l'État de New York d'exploiter le gaz de schiste.
La scène en soi, en fait, donc c'est un monsieur qui met de l'eau dans son évier, qui allume avec un simple briquet l'eau qui est dedans, et on voit que ça s'enflamme, quoi. Ce qui paraît assez impressionnant. C'est la scène qui tourne le plus sur Internet.
Hein. Bah c'est pratique, remarque.
Ouais, on a le gaz gratuit.
Ça en veut.
Pour faire se chauffer.
T'as du feu. Donc affaire à suivre.
Ouais, je ne sais pas si vous voulez rajouter. Juste un petit truc, parce que tu parlais des secrets industriels et du fait du coup qu'on ne connaisse pas les compositions. Il y a justement là-dessus, en France, là, on a quelque chose comme 130 députés qui veulent essayer de faire passer une loi pour empêcher tout ce qui serait fuite ou révélation au nom du secret industriel, soi-disant pour préserver l'économie. C'est un peu dans les suites Wikileaks et compagnie. Tout ce qui est fuite, ça leur fait très peur, et ils veulent essayer là, de mettre des sanctions pénales pour toute révélation d'informations qui pourraient nuire au secret de la marque.
Il y en a déjà, sans doute, mais
j'ai pas j'ai pas toutes les infos sous les yeux, j'y ai pensé quand tu disais ça.
C'est pas nouveau, dans pas mal de boîtes c'est déjà réprimé, mais je pense que là c'est pour aussi renforcer la répression là-dessus, quoi.
Ouais, enfin là c'est carrément une sanction pénale, quoi, avec je sais plus combien de milliers d'euros d'amende et des peines de prison et compagnie.
Donc ne dites pas la vérité, surtout mentez, c'est mieux pour vous, pour pas vous faire condamner dans ce pays.
La vérité est ailleurs.
Voilà, en parlant de sanctions pénales, on arrive à notre deuxième actu. Alors Cyril, tu vas nous parler de procès.
Bah, le Gambas, ouais.
C'est un peu la minute procès.
Alors, le procès ça, ça va être la minute procès. Donc hier, mercredi, c'était le verdict du procès du groupe d'action non violente antinucléaire. Le 8 décembre 2010 avait eu lieu le procès donc de 7 personnes du Gambas. Ce procès concernait l'action du blocage de train Castor 2010 qui avait eu lieu à Caen le 5 novembre 2010. L'audience a duré 6 heures. Nous avions été sans surprise chargés par le parquet, par la SNCF et par Areva. Ils ont prôné l'obéissance passive, nous leur avons opposé la désobéissance active, légitime, consciente et radicale. Il a été difficile de préparer en un mois un procès d'une telle ampleur. 7 prévenus, 4 témoins majeurs, 2 parties civiles avec leurs 3 avocats, 3 avocats de notre côté. La procureure de Caen qui prend à bras le corps le dossier, 300 personnes en soutien lors du procès. Mais nous avons réussi, grâce à vous, à maintenir notre âge et cette conflictualité avec le système qui défend le nucléaire. Pour certaines et certains d'entre vous, vous avez découvert les enjeux de ce procès en le vivant de l'intérieur. Nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté, nous avons mangé, nous avons ri. Bref, nous avons réussi à profiter de ce procès pour nous mobiliser, nous organiser, avancer, ne pas nous laisser abattre par ce qui pouvait apparaître comme une répression terrible. Cela n'enlève pas les blessures ni le travail que nous devons poursuivre pour frapper le nucléaire là où il est faible. Ce 21 janvier vers 14h, nous en saurons davantage sur ce que le juge aura retenu des débats contradictoires de l'audience. Donc le verdict est tombé.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, bah, tu vas voir. Donc, le Gamba fait appel de la décision du tribunal. Le verdict des 7 inculpés ayant participé au blocage du train de déchets a été rendu. Les militants ont été reconnus coupables des chefs d'inculpation, d'entrave à la circulation et de préjudice d'image à l'image d'Areva. La procédure en nullité requise par la défense a été rejetée. Les militants ont donc été condamnés à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende. L'un d'entre eux ayant refusé la prise d'empreinte digitale lors de sa garde à vue a écopé de 500 euros supplémentaires. Au civil, les militants sont condamnés à verser 1 euro de dommages et intérêts à Areva.
Ça va renflouer les caisses.
Et 20 500 euros à la SNCF. 1 000 euros de frais de justice ont été accordés aux deux parties, donc ce qui au total tourne autour de pas loin de 30 000 euros. Les peines prononcées par le tribunal sont totalement disproportionnées, témoignent de la volonté de l'État de réprimer sévèrement des militants non violents du Gamba. Elles s'inscrivent dans la continuité des violences policières infligées aux 5 militants lors de leur désentravement. 3 d'entre eux avaient été grièvement blessés aux mains et garderont des séquelles à vie. Donc les greffes et compagnie. Nous n'acceptons pas ce jugement qui banalise les violences policières et criminalise des militants et nous faisons appel de la décision du tribunal d'instance de Caen. En parallèle, nous avons saisi le tribunal administratif pour contester la légalité de la mise en circulation par les autorités du convoi Valognes, donc de Valognes à Gorleben du 5 novembre 2010. Les premiers éléments de l'enquête montrent des anomalies qui pourraient nous donner raison a posteriori. De plus, nous saisissons le doyen des juges d'instruction et la CNDS, donc la Commission nationale de déontologie de la sécurité, afin que la lumière soit faite sur les violences policières et que celle-ci ne reste pas sans suite. Selon le lobby nucléaire, les transports de matières radioactives sont totalement sécurisés. Le 5 novembre dernier, nous avons fait la démonstration du contraire. La répression, aussi forte soit-elle, qu'elle soit policière ou judiciaire, renforce notre détermination à nous opposer fermement à cette société nucléaire qui a toujours été imposée par la force. Donc bah ça, c'était pour concerner les procès du Gamba. Juste un dernier mot, le site gamba.blogspot.com. Et donc, sur le site, vous trouverez les références pour faire un don en solidarité. Et puis, toujours dans les...
Est-ce qu'il y a peut-être des mobilisations, là, aussi, en soutien?
Alors, pour l'instant, rien n'est annoncé. Simplement, le soutien a été très fort pendant le procès, d'accord, parce qu'il y avait 300 personnes en soutien. Et bon, bah, là, ils font appel, donc à suivre. Quoi.
D'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est besoin de sous. C'est ça pour...
Pour l'instant, ouais, ça.
Voilà. Alors, seconde actu, procès.
Procès, rien, toujours.
Deuxième minute procès.
Ouais, non, on l'a dit, bah, quand oui, on dit la vérité, maintenant on a des procès.
Ouais. Le sujet de la prise d'ADN.
Alors là, cette fois-ci, oui, c'est sur un procès d'un barbouilleur, donc des boulonneurs, François Vaillant, poursuivi pour refus du fichage au fichier national automatisé des empreintes génétiques, donc le FNAEG. Donc le procès s'est déroulé à Rouen le 17 novembre 2010. L'avocat général a réclamé 300 euros d'amende, comme en première instance. Mais il n'a pas été suivi par la cour qui a condamné le rédacteur en chef de la revue Alternative non violente à une amende symbolique de 1 euro. Donc c'était le 12 janvier 2001.
C'est d'autres sommes. Hein,
bah, et 1 euro l'amende pour un refus d'ADN, ça va, ça vaut le coup de refuser en tout cas, mais c'est déjà 1 euro de trop. L'originalité de l'audience en appel du 17 novembre 2010 tient à ce qu'une généticienne de l'INSERM, Catherine Bourguin, a témoigné du fait que les segments non codants enregistrés dans le FNAEG sont au regard de découvertes scientifiques récentes capables de discriminer les individus en fonction de caractéristiques génétiques, couleur de peau, maladie, etc. Or, la loi interdit formellement cette discrimination. C'est pourquoi l'avocat Nicolas Gallon a plaidé l'illégalité du fichier FNAEG en se fondant sur cet élément. Ce procès à Rouen en appelle maintenant d'autres du même genre. Le FNAEG compte actuellement plus de 1 300 000 personnes fichées. N'importe quel citoyen peut s'y retrouver au regard de ce qui se passe dans certains commissariats qui marchent aux chiffres pour satisfaire la politique de la peur entretenue par l'actuel président de la République. Le FNAEG est en réalité un fichier dangereux. Rien n'empêcherait demain un pouvoir politique de type Vichy de s'emparer du FNAEG et de s'en servir pour discriminer des populations en fonction de caractéristiques génétiques. Les trains qui se sont ébranlés vers l'Allemagne nazie ne contenaient-ils pas tous des personnes qui avaient été abusivement fichées? Donc il y a toute la suite et tout le détail en fait sur sur cette histoire de segments non codants qui permettent de discriminer des individus. Donc, c'est sur le site de la Ligue des droits de l'homme Toulon. Donc, c'est ldh-toulon.net. L'article Le FNAG, un danger pour les libertés, il n'y a pas d'ADN neutre.
D'ailleurs, j'ai vu un mec qui avait craché sur les écrans ACL dans le métro en passant. Un gros molard dessus.
Tu penses qu'il détecte l'ADN ?
Je sais pas, ça pourrait être un jour. On pourra peut-être porter plainte contre ce genre de personnes pour dégradation très grave.
Si ça fait pas le café aussi.
Peut-être qu'il pourrait même les mettre en panne.
Enfin, bon, voilà, sur l'ADN, il y a aussi un site qui regroupe pas mal de brochures, et, y compris de juristes, sur le fait que la preuve ADN n'est pas forcément une preuve. Donc il y a pas mal d'informations sur le site adn.internetdone.org.
Merci Cyril. Et comme on parlait des déboulonneurs, on peut en profiter pour parler de la 50e action du collectif des déboulonneurs de Paris. Donc il va avoir lieu ce vendredi 28 janvier. Donc le rendez-vous est à 19h métro Opéra, et les déboulonneurs vont descendre dans le métro pour agir sur les fameux écrans ACL. Donc en fait, ce sont des écrans qui sont dotés de capteurs. Donc apparemment, ils ne sont pas encore activés. Mais en gros, c'est des capteurs qui ont pour objectif de faire des études comportementales. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir où le regard des passants se pose. Et voilà, pour faire des études comportementales par rapport à la publicité, tout ça, qu'est-ce qu'on regarde en premier dans une pub, etc.
C'est là que les garçons ont beaucoup de soucis à se faire. Hein, parce que, on sait très bien ce qu'il y a sur les pubs.
D'ailleurs, j'avais assisté, parce qu'en fait, il y a plusieurs associations qui avaient fait un procès en demandant à ce qu'un expert indépendant puisse ouvrir ces panneaux pour voir exactement ce qu'il y a dedans. Et en fait, l'avocat qui défendait les entreprises disait que non, on ne pouvait pas ouvrir ces écrans parce que c'était une technologie et que voilà, il y a le problème de la concurrence, et que si les autres voient comment ils ont fait ce super écran,
il y a un brevet dessus.
Encore le secret industriel.
Incroyable, décidément.
Il y a beaucoup de replay, beaucoup de transparence là-dedans.
Mais le procès n'a pas eu lieu puisque les associations ont été déboutées, c'est-à-dire qu'elles ont été jugées inaptes à faire cette démarche. Quoi.
C'est marrant, tant de secrets quand de l'autre côté, ils nous envoient que si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, et que c'est normal de se faire surveiller, fliquer, filmer en permanence.
C'est pas à double sens, quoi.
Ouais, je me demande qui est-ce qui a le plus de choses à cacher là-dedans.
Tu veux me dire un petit mot ? En tout cas, on va se faire une petite pause musicale. Et puis, je rappelle juste le rendez-vous donc pour les déboulonneurs, 19h, à la sortie du métro Opéra. Et donc, munissez-vous d'un ticket parce que les déboulonneurs descendent dans le métro. C'est important de venir les soutenir parce que c'est de la publicité, mais c'est aussi de la surveillance par derrière qui se cache et qui un jour va arriver.
Voilà. C'est quoi ce qu'on va écouter là ?
Bon, au pire, si jamais vous n'avez pas de ticket, il y a toujours la mutuelle des fraudeurs.
Ça existe. Peut-être que les portillons marcheront tout seuls. Alors là, on va écouter Monsieur Bidon, qui soutient le réseau Sortir du Nucléaire et qui va nous chanter Les aventures de Monsieur Propre au pays des lettres de motivation. Tout un programme. Monsieur Bidon.
Je lève la tête et scrute l'horizon. Rien de beau dans mon champ de vision. Reviendra-t-il de nos beaux jours? Est-ce le point de non-retour? Des cœurs qui semblent être sans recours. Il faut qu'on soit clair. Les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la Terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Yeah. Quand je vois leur raison, ça l'autodestruction. Du Cro-Magnon. Il faut arrêter le train de ces vilains petits malins transportant le monde vers la fin.
May the wicked man be eliminated. from all over the earth forever, ever and ever.
Il faut qu'on soit clair, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la terre. Ça fait longtemps qu'on nous assassine avec l'affaire kérosène, pollution et déchets nucléaires. Trop c'est trop, on ne peut plus se taire. Voilà, yeah. C'est le pouvoir au mépris de la vie. Yeah. Mais tout le monde semble en faire fi. Wow. C'est ni toi ni moi qui avons fait le choix de ce grand fauteur de Zawa. Se taire, supprimer les centrales nucléaires, les remplacer par des systèmes solaires pour protéger les enfants de la terre. Wow, wow. Faut maintenant arrêter de polluer afin de préserver l'humanité. Faut maintenant arrêter d'empoisonner
les enfants de la terre.
On peut plus se supprimer les centrales nucléaires.
Alors, il y a eu un petit problème technique. En fait, c'était pas Monsieur Bidon, c'était Commandant Simioy qui nous parlait du nucléaire également. Et on mettra Monsieur Bidon tout à l'heure, il n'y a pas de souci.
Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de notre super émission, La Banda Beber. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup à Beber là, sur la table, hein, les gars, ça va pas?
Si, si, si.
Et en passant, on voulait saluer quand même le camarade Aurélien qui nous quitte malheureusement, qui va rejoindre Marseille et qui... peut-être pourra faire un peu moins d'émissions de la bande d'Abébert. Bon, on sait jamais. Et puis, on va venir à l'occasion.
Un envoyé très très spécial permanent à Marseille.
Bon, en fait. Bon, on l'appellera de temps en temps, mais bon, on voulait le saluer parce qu'il fait sa fête de départ ce soir. Donc voilà.
D'ailleurs, j'ai vu qu'à Marseille, il y a une carte dans le couloir avec tous les cartes sites radiologiques hyper craignos. Et ben, à Marseille, ça craint.
Voilà, oui, en fait, donc cette carte, c'était le réseau stratonucléaire qu'il avait fait. Qui montre en gros qu'on est l'un des pays les plus nucléarisés au monde, qui est le pauvre parapluie B.
Et je préviens que le sud-ouest est la région la moins nucléarisée sur la carte. Hein.
Voilà. Ah, tu en es fier. Voilà, pour notre deuxième partie, on va déconstruire le mythe Areva, enfin le mythe du nucléaire. Donc là, il y a Khaled qui va nous parler de la pub Areva. Et on a aussi un invité qui est de la CRIRAD. Donc nous allons recevoir
Bruno Charéron.
Voilà, Bruno Charéron. Donc on va le recevoir tout à l'heure.
Vous nous entendez, Bruno?
Oui, oui.
Voilà, impeccable.
Bah, bonjour, Bruno.
Bonjour.
Donc on va d'abord déconstruire la pub Areva. On va écouter Khaled. Et après, on va parler avec vous un petit peu de nucléaire, du Niger. Et vous allez aussi nous présenter la CRIRAD.
OK.
Et merci d'avoir répondu à notre appel.
Je vous en prie.
Alors Khaled.
Oui, alors du coup, donc on va parler de la dernière publicité d'Areva qui est nommée donc l'épopée de l'énergie. Je sais pas si on peut écouter donc la petite musique d'Areva, enfin de cette publicité là, pour que les spectateurs qui l'ont déjà vue aussi, parce que déjà en fait cette pub donc elle sera diffusée sur tous les écrans avec 1500 spots sur 30 chaînes TV. Rien qu'en France, donc elle passe déjà dans les cinémas. Je connais déjà des personnes très scandalisées qui l'ont vue. Donc voilà. Et donc pour cette publicité, Areva a dépensé donc pour la production et la diffusion un peu partout déjà 15 millions d'euros. Ça fait quand même un sacré paquet. Donc je ne sais pas si à la technique ils vont arriver à mettre la musique de ça.
Tu peux la faire.
Oui, parce que quand même dans l'affaire, ils ont quand même détourné un méga tube de funk qui quand même, c'est voilà. Maintenant c'est identifié Areva, c'est scandale.
Donc voilà, on a fait la musique. Donc tous ceux qui ont déjà vu la première publicité en fait d'Areva, donc on voit une sorte de SimCity dans une ville.
C'est quoi,
où ils montrent.
SimCity.
C'est un jeu vidéo en fait où on fait des villes.
Du virtuel.
Enfin, virtuel, exactement. Donc, où justement c'était déjà très critiqué. Mais celle-là, elle bat vraiment tous les records parce qu'ils sont allés encore plus loin dans la manipulation. D'ailleurs, tous les antipubes peuvent remercier Areva, moi le premier, pour nous donner encore plus d'arguments, de critiquer la publicité en général et de montrer qu'elle est vraiment manipulatrice là-dessus. Voilà en fait.
Parce que du coup, parce que si on n'entend pas, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble à peu près la pub ? Je sais qu'il y en a pas mal qui ont vu la pub là autour de la table, mais c'est vite fait. S'il fallait que tu nous fasses une phrase.
Alors en fait, donc je vais m'inspirer donc de ce qu'a dit Hervé Kempf dans un article qui s'appelle La société nucléaire, qu'on peut retrouver sur reporter.net, son site internet, où en gros dit 61 secondes d'un film très bien réalisé qui caricature sous forme d'un dessin animé au graphisme réaliste l'histoire de l'énergie. Le vent pousse les voiliers de l'Égypte antique, l'eau meut les moulins du Moyen-Âge. Eh oui. Et en fait, là, non, encore, c'est pas encore ça, mais bon. Le charbon anime la révolution industrielle. Le pétrole propulse la société dans l'âge automobile. Le nucléaire associé à l'énergie solaire et éolienne incarne le monde présent symbolisé par un conglomérat d'immeubles en bord de mer, au sommet de l'un desquels des gens dansent dans une ambiance de discothèque. Donc voilà, en fait, en gros, la pub est finie avec des gens qui dansent sur une ambiance de discothèque. C'était déjà un peu présent dans la première publicité. Et donc voilà, au premier abord, ces scènes sont agréables. Je ne sais pas si le professeur veut nous en parler un peu de sa première sensation quand il a vu cette publicité.
Bah, moi, en fait, ça m'a fait penser... Alors, tu parlais des jeux vidéo, mais ça m'a choqué, mais d'emblée. C'est-à-dire, la première pub, ça faisait vraiment SimCity. Genre, on construit des villes à l'américaine, hein, parce que c'est quand même... Areva, il me semble que c'est à peu près français. En tout cas,
son actionnariat est détenu par l'État français majoritairement. Voilà.
Et c'est quand même très, très, très américanisé, genre les villes carrées avec les rues, le quadrillage, etc. Donc ça fait vraiment, on est dans le monde virtuel. C'est un jeu, c'est nucléaire, ça va, c'est pas non plus important. Et là, on a l'impression que c'est un jeu genre de type genre civilisation, on refait l'histoire, etc. Et c'est marrant, c'est systématiquement. C'est genre c'est toujours les puissants, c'est-à-dire c'est l'Égypte, puis après t'as la société du charbon britannique, et puis après t'as le pétrole parce que t'as les plaines du Texas qu'on voit avec les dairies qui pompent du pétrole, et à la fin c'est Areva qui domine le monde.
C'est l'aboutissement.
Je rappelle, c'est le nucléaire associé aux énergies renouvelables et éoliennes, donc nucléaire égale énergie renouvelable, en gros.
Ouais, parce qu'en fait sur la pub on voit en fait une centrale nucléaire, des panneaux solaires et des éoliennes offshore. Il me semble, tout ça associé dans une sérénité ambiante.
Enfin, les panneaux solaires, on les reconnaît limite. Hein, quand même.
C'est tout à la fin, les panneaux solaires.
Et puis c'est un champ gigantesque, donc c'est pas à taille humaine, c'est vraiment, ça entoure la centrale. C'est quand même.
Ça alimente la centrale.
Vision, voilà. Pour eux, c'est que les énergies sans CO2. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils le présentent sur leur site internet. Après, toutes les énergies fossiles, etc. Les énergies sans CO2, c'est l'avenir, machin. Bon, par contre, sur l'histoire qui continue à s'écrire, je ne sais pas ce qu'ils envisagent après. Après, il va falloir décontaminer peut-être la Terre.
Des cours de danse disco.
Ouais. Non, mais au niveau d'énergie, de l'énergétique.
Justement, en fait, déjà, on peut voir en fait, dans la publicité, c'est qu'ils ne présentent pas... Enfin, ils présentent que le nucléaire, en gros, c'est un peu l'avenir. Enfin, aujourd'hui, on est à l'épopée donc, du nucléaire, on pourrait dire plutôt que... Enfin, à ce niveau-là. Et c'est intéressant que dans les critiques... qu'il y a là-dessus, on parle plus, enfin en fait on montre toujours les civilisations d'avant, celle du nucléaire. Alors celle du nucléaire avec les énergies renouvelables, ils sont en train de faire la fête, c'est BCBG, c'est moderne, c'est jeune, c'est cool. Et celle d'avant, c'était, ils étaient en train de travailler, ils étaient en train d'extraire, des choses comme ça. Ils montrent vraiment genre, bon c'est bon quoi, voilà, c'est avec le nucléaire, c'est tranquille,
on travaille plus quoi.
Un peu d'énergie renouvelable, on n'a plus très besoin de travailler. On fait la fête. Et
bah moi, je vote nucléaire. Ça
montre déjà le projet de société.
Ouais, mais c'est pas une bonne vision. Parce que, par exemple, quand on voit le gars qui met du charbon dans le train, bah après, t'as des gens aussi qui sont bien assis confortablement dans le train. Donc, je pense que si t'as des gens qui dansent au son électrique du nucléaire, t'as quand même des gens qui travaillent. En fait, l'image n'est pas sur le même type de personnes.
Par contre, ils montrent pas...
Tout le temps avant, on voit les travailleurs, Mais quand ils montent toutes les autres, ils ont réécrit toutes les étapes de l'histoire, on voit les travailleurs. Et arrivé aujourd'hui, c'est plus le focus sur les travailleurs, mais sur les gens qui.
Donc il n'y a pas de mine d'uranium et des mineurs qui travaillent, quoi. C'est ça. Ah,
comment ça?
Ou alors ils les cachent.
Sont cachés. Exactement. On voit pas ce qui se passe en Afrique.
Il y a une phrase en fait de Thierry Salomon, donc il fait partie des négawatts qui ont bien travaillé justement sur des scénarios énergétiques d'ici 2050 de sortie du nucléaire, qui se base sur la sobriété, l'efficacité des renouvelables et aussi de solutions en fait de sortie plus ou moins, enfin pas d'autonomie totale mais du pétrole. Justement, ils disent le message de la publicité en gros, il est limpide. C'est un monde de rêves, de teufs et de cigales qui dansent tout l'été si c'est que ça nuque. Donc le message est simple, consommer sans inquiétude, nos centrales nucléaires ronronnent, fournissant le miel énergétique dont rêve l'humanité depuis des millénaires. Depuis les premiers kilowattheures produits dans l'effort, la sueur et le carbone, Areva, fournisseur officiel de la corne d'abondance, le modèle énergétique est clair. L'énergie ne peut être que centralisée, d'ailleurs parce que c'est pour ça que les centrales éoliennes et photovoltaïques sont aussi centralisées, donc à ce niveau-là. Le nucléaire, qui n'émet pas de CO2, a les mêmes vertus que les renouvelables, il est propre sur lui et inépuisable.
Amen.
Donc voilà, exactement. La deuxième grosse critique, en fait, c'est qu'il y a un petit démontage en fait à ce niveau-là de la publicité où justement tout ce qui ne montre pas, il montre que le côté positif donc du nucléaire où ils ont dépensé quand même plusieurs millions d'euros. Donc il y a quelque chose qui, enfin il y a un très bon article donc de Terra Eco là-dessus qui en parle où justement ils démontent la publicité avec tout ce qu'elle apporte, donc sur les mensonges au niveau du CO2 parce que ça émet quand même du CO2 au niveau du transport, des choses comme ça, c'est un,
l'exploitation
certainement pas. Qu'il y a une manipulation par le côté un peu storytelling, c'est une stratégie en fait donc qui consiste à vendre une marque ou un homme politique, non pas en vantant ses qualités intrinsèques mais en racontant son histoire, donc en gros on parle pas, c'est pour ça qu'on parle pas de l'uranium et tout ça. Et justement, on ne parle pas aussi des autres énergies comme l'hydroélectricité qui est passée un peu en poupe alors que ça existe encore aujourd'hui, le bois qui existe, enfin il y a plein d'autres énergies. Et surtout, en fait, ce que ça montre, c'est que en fait, si Areva a investi quand même 15 millions d'euros qui sont payés par le contribuable puisque c'est l'État français qui est actionnaire majoritaire donc, d'Areva à 90%, donc pour les chiffres exactement, qui donne cette image positive. Et il montre justement, c'est que la réalité, c'est que le nucléaire est en crise. C'est un peu l'une des théories justement, c'est que vu que c'est en crise, on commence à parler de mix énergétique, de mettre des choses sur l'économie d'énergie, parce qu'il y a une petite phrase en fait sur l'économie d'énergie à la fin du film, de la publicité, mais ils sont obligés en fait de le mettre, ça c'est la loi qui les y oblige, comme toutes les publicités des grands pollueurs, et donc voilà, enfin de mettre en fait un message pédagogique. Et donc voilà, en fait, en gros, la théorie, ce serait que justement, en fait, le nucléaire commence un peu à être en crise. Il y a de plus en plus de concurrence au niveau national, international. Donc, pour mieux cacher l'extraction d'uranium, par exemple, au Niger, où il y a des accidents graves, donc Bruno pourra nous en parler à ce niveau-là, bah, il faut encore de la publicité pour donner cette image positive et joviale.
Justement, Bruno Chariron, vous avez un avis sur. Vous l'avez vu, cette pub ?
Bonsoir. Oui, j'ai vu la pub. Ben, la vie, c'est que cette pub illustre une fois de plus le décalage qu'il y a entre information et communication. C'est ce qui, moi, me choque le plus par rapport à l'attitude d'Areva en général. C'est vraiment il y a deux mondes complètement différents, voire opposés. Il y a le monde qu'Areva nous décrit à la télévision, dans la pub ou dans un certain nombre d'émissions. Et il y a ce qu'on voit sur le terrain lorsqu'on se rend, par exemple, au Niger ou au Gabon, ou parfois en France, d'ailleurs, autour des anciennes mines d'uranium. Et c'est ce décalage que je trouve vraiment insupportable.
Donc, Bruno Chariron, qui est responsable du laboratoire de la CRIRAD, commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Voilà, mes camarades, vous vouliez avoir un peu plus d'infos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le laboratoire, sur l'association ?
Donc la CRIRAD, c'est une association, loi 1901, qui a été créée en 1986, ça commence à dater, suite à la catastrophe de Tchernobyl, puisqu'à cette époque, l'État français nous a fait croire qu'il n'y avait pas de contamination en France à cause de la catastrophe de Tchernobyl. Et un groupe de citoyens a fait faire des mesures sur des végétaux, sur des échantillons de sol, à des physiciens à Lyon, et ces mesures ont montré une contamination importante du territoire français à l'époque à cause de Tchernobyl. Et donc ces citoyens ont décidé de fonder une association et de gérer un laboratoire de mesure de radioactivité indépendant de l'État et des industriels.
Le mot indépendant revient souvent en ce moment. On parle de beaucoup de laboratoires indépendants. On voit que ça prend un rôle de plus en plus important dans notre société. Hein. C'est quelque chose.
Alors, effectivement, il faut faire attention parce que le mot indépendant veut tout dire et rien dire. Donc, je ferais mieux de préciser indépendant de quoi. Donc, la CRIRAD est indépendante de l'État et des industriels du nucléaire. Et cette indépendance vient du fait qu'un tiers du budget de fonctionnement de la CRIRAD, qui a 15 salariés, ce budget vient pour un tiers donc des cotisations des 5 000 adhérents, c'est-à-dire des citoyens qui acceptent de donner une cotisation annuelle pour que la CRIRAD puisse faire son travail de mesure, d'expertise, d'information indépendante sur la radioactivité.
Bruno, bonsoir Khaled. Justement, en fait, par rapport à la CRIRAD, nous savons que vous avez déjà fait beaucoup de travaux en France. Et aujourd'hui, on s'intéressait donc nous plus en détail justement sur ce que Areva nous cache, et notamment dans la phase d'extraction au Niger. Et justement, donc on souhaitait savoir si vous avez des informations. Enfin, vu que nous, en fait, on est très mal informés en général là-dessus en France et qu'on ne maîtrise pas vraiment ce sujet. Donc je sais que la situation politique est déjà très complexe là-bas, à ce qui paraît, Areva, c'est un peu un État dans l'État, ils détiennent quasiment une bonne partie de l'économie, que 20% de l'uranium de notre consommation nationale, c'est de l'uranium nigérien, vous me corrigez si je me trompe, et qui a justement des situations un peu politiques instables, comme tout pays un peu qui a des richesses dans ses sous-sols, qui dans l'Occident, que l'Occident veut exploiter pour consommer encore plus d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ?
Donc par rapport au Niger, la CRIRAD a été sollicitée en 2003 par une association qui s'appelle Agerinman, une association qui est basée à Arlit, la zone minière, aux confins du désert et de l'Aïr, les montagnes de l'Aïr. Et cette association nous a demandé d'aller faire des mesures parce qu'ils s'inquiétaient de voir apparaître un certain nombre de pathologies dans la population et aussi au niveau des animaux. Donc on a pu monter une mission en 2003. Ça a été très difficile puisque, par exemple, à l'atterrissage à Niamey, la capitale du Niger, mon collègue et moi, nous avons été les seuls passagers à être fouillés et nos équipements de mesure de radioactivité professionnelle ont été confisqués. Et on sait aujourd'hui que c'était vraiment quelque chose qui a été télécommandé. On était attendus et l'objectif était de nous empêcher de faire un travail approfondi. Donc on a quand même pu faire des prélèvements, des mesures avec de petits appareils portatifs discrets. Et depuis cette époque, 2003, on continue à travailler avec cette association Agerinman et son président, M. Al-Mustapha Alassen. Et justement, on a échangé ces derniers jours à cause de l'accident de cette fuite d'effluents liquides radioactifs de l'usine d'extraction d'uranium de la Somaïr, donc filiale d'Areva, au Niger.
D'accord. Cette fuite est relativement récente, c'est date du 11 décembre 2010. Ça a été constaté par l'association Agerinman le 16 décembre. Aujourd'hui, ça fuit toujours ou c'est circonscrit ? Est-ce que c'est pris en compte ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Parce que au niveau des communiqués que nous avons, c'est relativement restreint. On sait qu'il y a eu un problème. Mais avez-vous pu faire des prélèvements, reçu des prélèvements de la situation de cette boue radioactive ? Qu'est-ce que c'est comme boue radioactive d'ailleurs ?
Donc par rapport à cet accident, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, c'est très difficile d'avoir des informations. Par recoupement, ce qu'on peut considérer comme plausible aujourd'hui, c'est que c'est une fuite qui aurait concerné 50 millions de litres d'effluents à la fois contaminés sur le plan radioactif, par l'uranium en particulier, et sur le plan chimique. C'est dû au fait que, par effet domino, il y a un premier, si vous voulez, l'usine d'extraction de l'uranium a pour objet d'extraire le métal radioactif uranium après une attaque du minerai dans l'acide. Donc il y a des jus, des liquides qui se chargent en uranium et il y a des liquides contaminés par cet uranium qui sont répandue dans des bassins de rétention à même le sol. Et il y a beaucoup de bassins, les quantités d'effluents sont très importantes. Et un de ces bassins a cédé, sa digue en terre a cédé. Et ça a fait donc un écoulement dans le second bassin, dont la digue a cédé, qui a fait céder celle du troisième bassin. Et ces effluents se sont répandus sur une surface qui serait de l'ordre de 20 hectares à 4 km de la ville d'Arlit. Si on calcule la quantité d'uranium que cela aurait répandu, ça ferait 120 fois plus que la fameuse fuite d'uranium de l'usine Socatri au Tricastin en 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet incident au Tricastin qui avait défrayé la chronique, on en a beaucoup parlé. Mais là, au Niger, c'est 120 fois plus de radioactivité qui a été déversée dans l'environnement et on en a très peu parlé et on en parle très peu. Et si on évoque les décalages entre la communication d'Areva et l'information, je suis allée sur le site d'Areva il y a encore quelques jours, il n'y avait pas un mot sur cet accident, même pas dans la page qui s'appelle « Déclaration des événements ». Donc là encore, on a un décalage qui est vraiment profondément choquant entre la façade et la réalité. Alors maintenant, cet accident, il est très inquiétant, puisque d'après les premiers éléments qu'on a via l'association qui est sur place, donc ces liquides et boues radioactives se sont répandus sur une surface très importante. Ils ont pu atteindre des piézomètres, c'est-à-dire des forages qui sont faits pour prélever les eaux souterraines. Et donc toute la question est de savoir est-ce qu'il y a eu et à quel niveau une contamination des eaux souterraines dans cette zone. Donc nous, au niveau de la CRIRAD, on a écrit à Areva le 17 décembre 2010 en demandant des questions très précises, en posant des questions très précises sur les contrôles faits dans les piézomètres, sur la radioactivité répandue. On a eu une première réponse avant la fin de l'année d'Areva, le porte-parole, M. Jacques-Emmanuel Saunier, nous disant qu'on aurait des informations sur le site internet d'Areva qui serait rendu public. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien. Donc on lui a réécrit il y a quelques jours en rappelant quand même que plus d'un mois après un accident d'une telle amplitude potentielle, ce serait quand même la moindre des choses que l'on nous donne un minimum d'informations. Et en parallèle à ça, on essaie de mettre en place avec l'association Hagelinmann des contrôles indépendants, c'est-à-dire que Hagelinmann puisse prélever de l'eau dans ses piézomètres et nous l'envoyer au laboratoire en France pour qu'on l'analyse. Maintenant, il y a plusieurs difficultés pour faire ça. La principale difficulté, c'est de trouver des moyens financiers parce que envoyer ces échantillons vers la France, c'est de l'argent. Là, on parle par exemple de 300 à 400 euros rien que pour les frais de transport. Après, analyser les échantillons, ça peut coûter relativement cher si on veut vraiment faire des analyses détaillées de tous les polluants radioactifs et chimiques qu'il faudrait surveiller. Donc c'est un travail qui se fera, j'espère, mais il faut qu'on ait un soutien. Quand je dis « on », c'est à la fois la CRIRAD, mais encore plus Hagelinmann, pour pouvoir poursuivre ces contrôles indépendants qu'on essaie de faire de temps à autre depuis 2003 au Niger.
Un, deux, oui. Concrètement, il y a besoin de fonds pour pouvoir assurer des mesures d'échantillons et établir la situation de manière pratique pour évaluer les conséquences toxiques sur l'environnement et sur la population locale. Je vais peut-être faire un parallèle osé, mais est-ce que ça peut se comparer à ce qui s'est passé à Saint-Pierre dans le Cantal ?
Oui et non, à Saint-Pierre dans le Cantal, oui dans le sens où on est confronté au même type de problème, c'est-à-dire l'impact de l'exploitation de l'uranium. Donc de ce point de vue-là, oui, à Saint-Pierre, ce que l'on a mis en évidence par des études qu'on fait depuis maintenant plus de 5 ans, c'est que on a laissé à Saint-Pierre établir, en France, donc dans le Cantal, établir des zones de loisirs, un plan d'eau, un stand de tir, un mur d'escalade, un camping, un terrain de football, sur des zones qui sont contaminées par des déchets radioactifs de l'usine d'extraction de l'uranium toute proche. Et en particulier à Saint-Pierre, le terrain de foot est vraiment construit sur des déchets de l'usine d'extraction de l'uranium, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Au Niger, l'ampleur, le site de Saint-Pierre est tout petit. Au Niger, ce sont des quantités de, comment dire, la quantité de déchets radioactifs produits, la quantité d'effluents radioactifs est beaucoup plus importante parce que ce sont des usines. Il y a deux usines, l'usine de la Somaïr et de la Cominac. Et donc l'ampleur des problèmes à une échelle qui n'est pas comparable entre le Niger et le site de Saint-Pierre.
On est dans des grandes mines, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas allé sur place, hein. C'est un petit peu le problème.
Et est-ce qu'on pourrait avoir une idée des conséquences sur la population locale, enfin vous qui êtes allé là-bas?
Alors, avoir une idée de l'impact sur la population locale, c'est quelque chose qui est très difficile à apprécier du point de vue scientifique, parce que c'est pas parce que l'on voit des gens qui sont malades que l'on peut affirmer que ça vient de telle ou telle source de pollution. Donc nous, là-dessus, du point de vue scientifique, on est très prudent. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une pollution radioactive qui n'est pas négligeable dans l'environnement autour de ces mines au Niger, pollution des sols. On a démontré en 2007 qu'il y avait par exemple des roches radioactives de la mine sur la piste devant l'hôpital de la ville, avec un niveau de radiation 100 fois supérieur à la normale. Ça, c'est tout à fait anormal, évidemment. On peut constater en lisant les propres rapports officiels d'Areva, mais ils ne sont pas en ligne sur leur site, qu'à cause du gaz radioactif, le radon, qui est rejeté dans l'atmosphère par les mines souterraines, la population d'Akokan, certains groupes de population, reçoivent une dose au poumon, une dose de radiation, qui dépasse les normes sanitaires en vigueur. Il y a aussi, c'est démontré par de nombreuses études, une pollution des eaux qui sont distribuées, qui sont bues par la population, pollution en particulier par l'uranium. Donc dans la zone d'Arlit, que ce soit le sol, l'air ou l'eau, il y a une contamination, il y a par l'uranium, il y a un impact de l'extraction de l'uranium. Alors quels vont en être, quels en sont et quels en seront les effets sur la population, ça c'est très difficile à établir. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des effets, parce que plus les connaissances s'accumulent sur l'effet des très faibles doses de radiation, plus ces connaissances montrent des effets à très long terme. Et ce qui est donc choquant, ce qu'il faut inverser, c'est cette pollution. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'Areva mette en place des actions concrètes pour diminuer la pollution, pour récupérer les matières radioactives qui ont été répandues dans l'environnement, pour abaisser ces rejets de gaz radioactifs à l'atmosphère, etc., etc.
Moi, j'avais lu, en fait, que même, enfin, si on regarde au niveau des problèmes politiques locaux, en fait, il y avait même, j'avais un article, en fait, qui s'appelle « Mort pour Areva » par rapport, qui font, en fait, dans l'article, hein, ils font référence aux deux personnes qui sont mortes, dont on a parlé partout dans les médias, mais on n'a jamais analysé la situation politique à ce niveau-là au Niger. Et il y avait un chef Touareg, donc, qui s'appelle Al-Mustapha Alassane, qui a dit que le nucléaire n'est pas une énergie propre, nous voulons informer le monde, évoquer les problèmes de radioactivité qui provoquent des morts, des maladies, des fausses couches, il n'y a plus de faune, plus de flore, autruches et gazelles ont disparu. Donc bon, c'est un témoignage, donc du coup c'est vrai qu'on peut pas, il n'y a pas de vérité scientifique là-dessus, mais c'est vrai que les médias font vraiment quand même très mal leur boulot. Enfin, le seul moment où on a parlé d'Areva au Niger, moi j'avais vu, c'était juste pour dire que c'est pour défendre des intérêts français au Niger, qu'il faut qu'il y ait des soldats, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir leur témoignage aussi.
Juste un petit rectificatif, Al-Mustapha Alassane n'est pas un chef Touareg, c'est par contre le président de l'association Aguerinman, avec laquelle on travaille depuis 2003, qui donc s'est constitué, entre autres, pour enquêter sur cette pollution radioactive et sur les conséquences de cette radioactivité et de cette pollution en général sur les humains, sur les animaux, sur la faune et sur la flore. Après, je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le nucléaire propre, c'est-à-dire la nouvelle tarte à la crème du nucléaire propre, en particulier sur la question des gaz à effet de serre. Un des gros points du discours d'Areva, c'est de dire que le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. Ça, c'est totalement faux. Si on prend, puisqu'on est sur le Niger, restons-y, il faut savoir que les mines d'uranium d'Areva au Niger, et les usines en particulier d'extraction de l'uranium, ont besoin de beaucoup d'énergie. Cette énergie est fournie en particulier et presque en totalité par une centrale thermique au charbon qui est située à 180 km au sud de la zone des mines d'uranium. Donc extraire l'uranium, c'est déjà, c'est polluant sur le plan de la radioactivité, mais c'est en l'occurrence polluant aussi sur le plan des gaz à effet de serre, puisque pour extraire une tonne d'uranium, il faut à peu près une dizaine de tonnes d'équivalent pétrole, et que pour les avoir visités, pour l'avoir visité, la centrale thermique électrique au charbon qui alimente les mines d'uranium est vraiment particulièrement polluante. Ça se voit, sans parler des gaz à effet de serre, au niveau de la fumée, de la poussière noire, c'est vraiment frappant.
Et consomme aussi énormément d'eau.
Un des deuxièmes gros problèmes de l'extraction de l'uranium, ça c'est vrai dans pratiquement partout, c'est la consommation d'eau et la pollution de l'eau. Dans le cas donc du Niger, c'est particulièrement grave parce qu'on est en plein désert, donc il n'y a pas d'eau, si ce n'est des eaux d'une nappe fossile, donc qui n'est pas renouvelable. Et les usines pompent dans cette nappe pour fonctionner, ont déjà pompé des quantités d'eau extrêmement importantes. Certains puits d'ailleurs sont à sec aujourd'hui. Areva essaie de mettre en place d'ailleurs une politique de comment dire, un peu mieux contrôler cette dépense d'eau, mais il y a une énorme dépense d'eau, et ça c'est un gros problème par rapport au développement des mines d'uranium, c'est que ça nécessite tellement d'eau que dans certains cas, c'est le cas par exemple en ce moment en Namibie, vous l'avez sûrement entendu, Areva a inauguré une usine de dessalement d'eau de mer,
Bruno,
en particulier pour alimenter en eau sa mine d'uranium.
Bruno, merci beaucoup. On va devoir rendre l'antenne. Pour avoir plus d'informations, donc allez sur tape CRIRAD sur internet.
CRIRAD.org.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée.
À bientôt.
Merci Bruno. Et à ce sujet, je voulais juste annoncer que dans le festival Bobine Sociale, donc il y a un documentaire samedi à 15h30 sur Arlit, deuxième Paris. Donc c'est un documentaire de 2005 et ça se passe au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, dans le 20e. Voilà.
Oui, ils parlent aussi du nucléaire et du pétrole dans ce festival, allez-y. Voilà, donc c'est la fin. Donc,
c'est la fin pour rendre l'antenne, donc merci à tous. Bébert. Comme dit Bébert, qu'est-ce qu'il dit ? Salutations écologiques et solidaires.
Et grosse bise à Aurélien.
Tant être éboueur, c'était mon rêve déjà enfant, de travailler en me salissant, pouvoir recycler les déchets, nucléaire ou bien pétrolier. Y'en a pour tout le monde dans ce job, de quoi faire plaisir aux snobs. Je suis un mec plutôt maniaque, je donne mes bouteilles à l'arc. On vit dans une telle porcherie, je file des oranges à Creuse-Marie. J'ai bossé pour la Cogema, c'était une boîte super sympa. Rien de tel qu'une ambiance chaleureuse pour draguer quelques cancéreuses. Et loin de toute forme d'agit-prop, mon nom c'est bien sûr Monsieur Propre. Je lutte contre ce qui est dégueulasse. Je peux même cirer vos godasses.
Quand la cloche me dit, là que s'avance la papa tank machine.